Oui, salut l'équipe de la Bastille Suisse, c'est Thierry. Là, je suis dans le TGV qui monte sur Paris. Non, je suis pas dans un TGV d'ailleurs, c'est l'habitude ça. Je suis dans un corail spécial qui monte sur Paris pour aller à la grande manif des électriciens et gaziers qui sont se battent pour défendre un service public spécialité. Et contrairement à ce que voudraient nous faire croire les médias, on se bat pas pour notre statut, puisque comme Sarkozy là c'est bien dit, officiellement notre statut on n'a rien à craindre, même si on sait que c'est une connerie. Mais on va bien se battre pour une autre idée du service public, pour une idée de solidarité et de service public à la française, tel qu'on le connaît depuis 1946, depuis que le Conseil national de la République a créé tous ces projets de grande nationalisation. Et qui ont fait leur preuve, hein, et qui font toujours leur preuve d'ailleurs. Nous, on n'a pas eu de coupure pendant pas mal de temps. Voilà, allez, je vous rappellerai de la manif, ciao.
Oui, bonjour à Daniel Mermet, aux auditeurs de là-bas si j'y suis et à toute l'équipe de l'émission. C'est un message d'agent de DFGDF. Vous entendez peut-être derrière nous les échos de la grande manifestation nationale qui est en train de se dérouler de Bastille à Invalides aujourd'hui. C'est une manifestation de l'ensemble de tous les agents du service public de l'énergie mobilisés pour essayer d'empêcher la privatisation d'EDF et GDF qui est actuellement au programme gouvernemental. Et le projet de loi changeant de statut de DFGDF en société anonyme sera à l'Assemblée nationale le 15 juin prochain. Il faut absolument empêcher ce désastre qui aura des conséquences terribles d'abord pour les usagers du service public de l'énergie, ensuite évidemment pour tous ses salariés. Il s'agit là d'une expression supplémentaire de la politique de destruction de tous les services publics à laquelle on assiste en ce moment. Et il faut absolument tout faire pour l'empêcher. Alors, on voudrait vous signaler une initiative prise par un collectif d'agents de DFGDF de lancer une pétition électronique qui s'appelle « Sauvons le service public de l'énergie » sur le mode de celle qu'avaient initié les chercheurs avec le succès que tout le monde connaît. Alors, cette pétition électronique peut être signée à l'adresse suivante www.energiepublic.org, énergie publique en un seul mot. C'est une pétition à destination des usagers qui explique les conséquences pour eux de la destruction du service public, hausse des tarifs en particulier, et donc on a besoin de l'aide de tout le monde. On appelle l'ensemble des gens aujourd'hui, des usagers des différents services publics, à nous soutenir et à signer le plus massivement possible cette pétition électronique, encore une fois disponible sur www.energiepublic.org. Merci, on a besoin de l'aide de tout le monde et il faut absolument sauver les services publics et celui de l'énergie en particulier. Merci et à bientôt.
Voilà, une marée bleue d'électriciens et de gaziers pour la grande manif aujourd'hui, comme on vient de nous le dire, sur le répondeur de la base, si j'y suis, de la Bastille aux Invalides. Ils sont 80 000 selon la CGT, c'est-à-dire 40 000 selon la police, et 60 000 sera le chiffre qui sera retenu. Et voilà, ben notre répondeur est envahi par cette marée bleue au 01 56 40 37 37, avec des explications bien précises. C'est pas la grogne, écoutez bien.
Salut Daniel. C'est en direct de la manif pour les services publics.
Bonjour à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis et à toute l'équipe. Mon message d'aujourd'hui concerne le mouvement social national mené en ce moment même à Paris par les salariés d'EDF et GDF, mais aussi par tous ceux qui veulent sauvegarder leur service public. En effet, cette grande manifestation ne concerne pas seulement le statut des deux entreprises nationalisées, mais surtout leur fonctionnalité première qui est de servir les citoyens en leur fournissant de l'électricité et du gaz au meilleur prix, de manière égalitaire et sûre. Cette grève est citoyenne avant d'être syndicale. C'est une lutte pour préserver ce qui appartient ni au patronat, ni au gouvernement, mais aux Français et aux Françaises.
Voilà, pour défendre le service public, le panneau plus avantage.
Je tiens donc juste à rappeler quelques points importants. Premièrement, les prix. L'idée que les prix à la consommation de l'électricité et du gaz vont baisser suite à la privatisation du groupe est une utopie ou un mensonge. En effet, dans nombre de pays qui ont libéralisé ces secteurs, les factures ont au contraire augmenté. Même M. Roussy, le président d'EDF, l'a dit au journal du dimanche le 5 octobre 2003. Je cite, « Les prix d'électricité devront sans doute augmenter en France. On ne peut avoir les tarifs du monopole avec la concurrence du marché ouvert. » Voilà, les prix de l'eau ont-ils baissé depuis la libéralisation de ce secteur ?
Oui !
Dites-vous bien que les actionnaires veulent du rendement.
Secondement, le coût. Les entreprises EDF et GDF font de gros bénéfices, qui sont soumis à l'impôt sur les bénéfices, bien sûr, sur les sociétés, mais en plus de ces prélèvements, l'État, comme seul actionnaire, prélève chaque année quelques milliards en plus sur ses bénéfices. Si 50% de ces potentielles actions sont vendues à des groupes privés, c'est la moitié de ces gains qui ne rentrera plus dans les caisses de l'État. Et il faudra bien qu'ils les trouvent ailleurs, donc en grande partie dans les porte-monnaies du contribuable. Ce qui, au bout du compte, augmentera encore le coût de l'énergie. Vendre EDF GDF, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Une autre justice sociale disparaîtra aussi, c'est le côté égalitaire de la tarification. Actuellement, elle permet à un foyer de Marseille de payer le même prix qu'un autre à Lille. Je ne parle pas des campagnes, des bords de mer ou des montagnes, où le coût de la livraison de l'énergie sera bien plus élevé que dans les grandes métropoles. Troisièmement, le social. N'oublions pas 1999 et sa fameuse tempête, où des milliers d'agents actifs et retraités ont été appelés en quatrième vitesse pour rétablir l'électricité aux Français. C'est cela le service public. Ce sont eux aussi qui ont dû traverser la Manche pour porter secours à nos voisins anglais, qui ont eu, eux, un secteur entièrement privé et qui n'ont plus les moyens de faire face à ce genre de catastrophe, car leurs effectifs ont été sabrés. EDF et GDF ont aussi un rôle social important à jouer, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau de l'insertion ou de la formation des jeunes, car ce sont sur ces entreprises que l'on compte pour accueillir des emplois jeunes ou des stagiaires en nombre important, chose qui ne sera plus possible après la privatisation. Rendement oblige.
Du bénéfice. Et nous, on est contre.
Ciao. Quatrièmement, la sécurité. Les investissements à long terme nécessaires à la recherche, à la maintenance et au développement de ces énergies n'intéresseront pas les actionnaires qui voudront avidement un retour sur investissement rapide et juteux. Cette nouvelle donne ne peut qu'entraîner, comme on l'a déjà constaté dans d'autres secteurs et dans d'autres pays, un effritement, voire un effondrement de la qualité et de la sécurité des installations de production et de distribution. Cette conséquence de l'ouverture du capital aux finances privées sera néfaste à l'environnement et aussi à l'intégrité physique des citoyens. Cinquièmement et dernièrement, le droit à l'énergie. N'est-il pas légitime de s'inquiéter de l'indépendance énergétique de la France lorsqu'au conseil d'administration siégeront des chefs d'entreprise du type d'Enron ou Vivendi? Les récentes coupures de courant survenues en Italie ou en Californie ou autre part ailleurs sont autant de signaux d'alarme qui montrent qu'un secteur de l'énergie aux mains d'intérêts privés n'est pas aussi efficace qu'on veut nous le faire croire. Et les coupures que les agents réalisent en ce moment sont là pour vous montrer ce qui risque de devenir une stratégie commerciale et donc d'usage courant pour les futurs distributeurs privés. Il est donc important que tous les citoyens résidant en France sachent que l'ouverture du capital de ces entreprises, qui signifie à terme leur privatisation, comme pour France Télécom ou Air France, ne leur apportera rien au bout, autant au niveau économique que social. Ce sera moins de rentrée d'argent pour l'État, plus de chômeurs et une qualité de service et de sécurité dégradée. Alors, réfléchissez. Salut, c'était Laurent RB, excusez-moi pour la taille du message. Au revoir, à bientôt.
Voilà, dernier avertissement. Après, on va mettre le feu. Salut.
Et voilà, c'est les Français, ils veulent mettre le feu. Voilà, ça y est, ils veulent plus l'électricité, ils ont coupé l'électricité, maintenant ils veulent mettre le feu à la place de l'électricité, c'est vraiment des gens rétrogrades et archaïques, alors que Monsieur Raffarin, vous connaissez Monsieur Raffarin, il a dit très précisément, il ne s'agit pas là de privatisation, mais d'une volonté de développement. Donc tout ce que vous venez d'entendre, c'est une pure un délire. Bon, c'est un délire et puis voilà tout. Aujourd'hui, nous aussi, on va délirer avec les marques. Vous savez, les marques, les vêtements avec des marques, les chaussures, les objets, etc., qui nous entourent. Ça s'appelle consommateur. Et oui, consommateur. Et auparavant, d'autres messages. Il n'y a pas que, l'électricité dans la vie quand même. Ni le gaz d'ailleurs. D'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Salut à tous. Je rentre de 6 semaines à Cuba, alors j'ai eu du mal à me remettre dans les petits problèmes quotidiens de France Inter. Enfin, toujours est-il que si vous êtes dans le sud-est et que vous êtes intéressé par ce qui se passe et tout, il y a un débat sur la crise du logement en pays de faïence organisé le vendredi 28 mai à Saint-Paul-en-Forêt au centre culturel à partir de 18h30. Le lendemain, samedi 29 mai à Mont-Sartou au cinéma La Strada avec André Asquieri et l'association Citoyen, il y a un débat sur le projet de constitution européenne. Et le vendredi 5 juin, toujours à Fayence, à 18h30, il y a un débat sur l'intercommunalité, si ça vous branche. Et puis si vous êtes sur Nice, il y a des tas de choses qui se passent sur Nice, et tous les mercredis, au cinéma Mercury, place Garibaldi, à côté du vieux Nice. Il y a Thierry Lagala qui vous fait 2 heures de pantaille et de projection. Si des fois ça vous branche. Moi, je fais les 10 minutes de pause entre... je fais l'entracte maintenant. Bon, je sais que pendant mon absence, Cavada est passé sur une liste à l'UDF et un proche de Juppé est venu à France Inter. Eh ben, bonne chance les gars, continuez. Dime compay, dime chico, que te parece de la vida. Dime compay, dime chico, que te parece el socialismo. Dime, dime, dime. Ciao viva, portez-vous bien.
Bonsoir Daniel Mermet, voilà, je vous signale une grande manifestation samedi 29 mai à 14h au Réformé. Nous pédalons pour l'environnement, c'est le collectif Vélo en Ville, donc nos coordonnées c'est le 04 91 59 20 01. Mais le vélo contribue à la santé, il contribue à la réduction de l'utilisation de la voiture et en même temps il procure un moyen de transport accessible à tous. Il faut favoriser la circulation urbaine parce que les transports et surtout les transports collectif. Rejoignez-nous à 2h pour exiger de la ville le respect de la loi sur l'air, la cohérence d'un réseau cyclable et une réflexion sur le partage des couloirs de bus et l'accès des vélos dans les trains, métro et trams. Des parcs à vélo pour pouvoir les garder en sécurité. Merci et j'espère que vous viendrez nombreux au Réformé à 14h le 29 mai, samedi.
Voilà, il y a 60 ans, Marseille était pilonnée par le bombardement américain. Et y avait mon grand-père sous les décombres. Et mon père ne nous a jamais parlé. Ça l'a tout le temps énormément ému. Et il m'a parlé la première fois, c'était au moment du drame qu'il y a eu en Amérique, quand les tours ont été effondrées avec tant de morts, et que les Américains ont fait une telle publicité, enfin publicité, le mot est mal choisi, mais il a entendu parler. Mon père a dit à ce moment-là, quand Marseille était pilonnée et que je suis allé reconnaître mon père sous les décombres, on n'en avait pas tant parlé. Voilà, un petit clin d'œil à mon grand-père que je n'ai jamais connu. Olivier de Marseille.
Ah, c'est un truc de dingue, votre émission. Voilà, c'est tout. Pas plus. Tu veux dire un truc, Victorien?
Ouais. J'adore votre émission.
Ouais, Victorien, il adore votre émission, sauf qu'il y a un gros problème, c'est qu'il l'a jamais écouté. Moi, je vous écoute tous les soirs, j'adore votre émission. Je pourrais pas vivre sans votre émission. C'est franchement, c'est très sincère. Ah, Victorien veut reparler.
Non, mais j'ai jamais écouté, mais je vais m'y mettre, ça je vous promets. Vraiment, d'après ce qu'on m'a dit, le bouche-oreille fonctionne, quoi. C'est fabuleux.
Qui est con, ce Victorien.
C'est dingue.
Qui est con, ce Victorien, alors. Vraiment. Moi, je suis en seconde, lui aussi. On est dans la même classe, on s'éclate. Et moi, il y a un gros problème dans ma vie, c'est que je vais redoubler. Alors, tous les profs, ils me disent que je suis super intelligent, vous voyez.
Moi aussi, j'ai redoublé.
Ouais, non, mais lui, c'est pas vrai. Mais moi, vous voyez, les profs, ils disent que je suis super intelligent. Bon, allez, notre message, il était bidon. Il était nul. Vous le passerez sûrement pas. Enfin, j'espère que vous le passerez quand même. Merci beaucoup, Daniel. Je t'adore. Ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Edouard Milsafif, la basse J'y suis, la marque et le ghetto.
Flight number 2, arriving from New York.
Moi c'était les Nike Red, super à la mode, avec un scratch en croix, super technique les baskets. Je les ai mis une fois et voilà, là j'étais un autre homme. Ah, j'étais un autre homme. Tout le monde disait, oh, elles sont belles tes chaussures et tout. Voilà, maintenant depuis c'est resté. Toujours Nike, jamais autre chose. Toujours Nike.
Consommateur, consommateur. Tout est dit en un mot, comme en trois, consommateur. Voilà un demi-siècle que nous vivons dans la société de consommation ou de consolation, comme vous voulez, un nouveau totalitarisme, un contre-pied au totalitarisme précédent, après Hitler, après Staline, voilà Coca-Cola. Ah ah ah, vous souriez, vous trouvez que j'en fais trop. Il faut rester cool, keep cool, man. On est libre, personne ne vous oblige. On a le choix, on est en démocratie. Fini les idéologies. Prenez cette image. La maternité, naissance du divin enfant, les fleurs, le papa, les photos, le bonheur, et là, tout près du berceau, regardez bien, Evian, Danone, Nestlé, Blidina, les cadeaux, les rois mages, à la naissance, ils sont déjà là, dans le plus intime, dans le plus sacré, au début de tout, dans l'intimité, votre bébé vous est offert par Nestlé. L'eau de baptême, c'est Vittel, et le curé, c'est Séguéla. Dès 1948, dès le premier salon de l'enfance, un publicitaire le disait franchement, je cite, « Mettre l'enfant dans le cou, c'est placer dans chaque famille un ambassadeur accrédité, une sorte d'agent de publicité actif, entrepreneur et tenace. » Et ça, ce n'est plus un jeu, mais de la publicité dynamique, celle qui vend. 1948, on passait de la réclame à la publicité, on passait du monde ancien à notre monde d'aujourd'hui, celui de la consommation, consolation. Tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Il y a eu un vent de anti-publicitaire et les auditeurs de France Inter et de la base J'y suis sont de sacrés publiphobes, ils l'ont démontré récemment. Combien de publiphobes? Eh bien très peu. Il y a en 1983, des publiphobes radicaux étaient 10% dans notre pays. Aujourd'hui, ils ne seraient que 3%. Ça semble très peu. Voilà qui désespère quelqu'un comme Paul Ariès, sociologue, politologue, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Putain de ta marque » et qui illustre un mouvement qui essaye de se faire entendre, qui s'appelle « Casseur de pub ». Des gens veulent casser la pub. C'était une vieille histoire à la fin des années 60, début des années 70. Il y a eu un mouvement contre la pub. Et puis, les années 80, ça a été les années de la pub. On trouvait ça très beau, la nuit des publivores. On était tout à fait dans la pub. Aujourd'hui, à nouveau, quelque chose conteste, quelque chose proteste. Nos logos, dit-on. Alors voilà. Avec Édouard Mills Affif, on est allé au Forum des Halles, à Paris, au centre de Paris, où c'est un temple de la consommation. Et on a vu comment les jeunes, venus souvent des banlieues autour de Paris, se comportent, achètent et se font marquer par les marques. C'est jusqu'à 18h, c'est sur Inter, c'est la base si j'y suis, putain de ta marque.
Un fleur est attendu en question, un fleur pour les questions, merci.
Quand on porte la marque, on porte le ghetto quoi. Ah oui, on porte le ghetto. Par exemple, si on achète une marque qui vaut un moto qui vaut 7000 francs, eh ben c'est pour ressembler aux gens qui peuvent mettre 7000 francs dans les vêtements tous les mois. Mais maintenant, nous, on n'a pas toujours possibilité d'avoir ces vêtements-là. Donc, il y a des petits magasins comme ça, tranquilles, avec des petites chaussures pas chères, tout ça. On vient acheter ça.
Pas cher, 159 euros, celle que j'ai dans mes pieds. C'est-à-dire presque 1000 et quelques, donc petite chaussure pas chère.
Société de consommation.
Société de consommation, exactement. C'est un engrenage. On est obligé de consommer pour être accepté avec nos amis. Il y en a, on se moque d'eux parce qu'ils sont pas bien habillés, ils sont moches, mais bon, c'est pas bien.
Pas être bien habillé, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire d'avoir des vêtements bizarres, quoi. Pas beaux, pas marqués, quoi. S'il y a écrit Tati ici plutôt que Lacoste, c'est pas bon. Tu mettrais ça, toi, Tati? Non, c'est mort. Là, vous me voyez, je suis en Adidas normal, mais c'est parce que je sors du travail, je porte des cartons et tout. Mais sinon, c'est plutôt Gucci. J'essaye de mettre des costumes, des trucs à l'italienne, quoi. Des trucs de parrain.
C'est quoi des trucs de parrain?
Costumes fumés avec des traits blancs, on les voit de loin. Des trucs tendance, quoi. Du Versace. Si celui qui a la marque, il faut dire, il est bien vu par les filles aussi, hein. Ah ouais, hein, t'as la marque, t'as les filles, hein. Si tu portes du Lacoste, tu portes du Nike, ça va être mieux que la fille, elle va dire, oh, regarde lui, il a de l'argent, il peut faire quelque chose pour moi. Elle va se mettre avec toi, mais si tu portes pas de marque et toutes ces choses, c'est dur dans les vêtements. La fille, elle va pas accrocher. On a été attaqué mentalement par les marques. On sait très bien qu'on se fait exploiter. C'est vrai qu'on se fait manipuler, on est bête.
On est attaqué mentalement, c'est fini, c'est comme ça.
Il n'y a plus rien à espérer de vous alors.
Plus rien à espérer de moi. Moi, c'est Lacoste et c'est Nike. Stop. Je sais que mon enfant, ce sera pareil. Hein. Dès qu'il va naître, je vais l'incendier de marque. Faut qu'il soit beau gosse, faut qu'il soit classe. Nous, maintenant, on est conditionnés, ça y est.
C'est-à-dire qu'il aura une tétine Nike.
Ah, il aura une tétine Nike, il aura un verso Lacoste, il aura une couverture Gucci. Franchement, nous, on sait qu'on se fait manipuler, mais bon, c'est comme ça. Hein.
Technologie AQ par Salina.
Le mot marque, il vient de l'anglais brand branding. C'était tout simplement l'outil qui servait aux cow-boys à marquer le bétail. Je dirais la généralisation aujourd'hui des marques, c'est une entreprise de marquage de la population. Marquage de la population de la même façon que l'on marquait les bêtes. C'est-à-dire qu'on transforme de plus en plus les humains en animaux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quoi? Une civilisation moutonnière, bêlante.
Voilà, Paul Ariès, on avait parlé du viol des foules, de la colonisation des esprits, mais vous entendez ces jeunes là au Forum des Halles à Paris, eh ben oui, ils sont c'est les manipulés qui acceptent la manipulation comme quelque chose de fatal. C'est donc la réussite totale de la manipulation lorsque la soumission est volontaire, qu'il y a une résignation tout à fait assumée, ce qui rend évidemment quelqu'un comme Paul Ariès en pétard, il est absolument furieux, il a peut-être quelques raisons.
On sait que les jeunes ne sont pas égaux devant les marques, que globalement, les principales victimes de la publicité des marques, ce sont d'abord les jeunes des milieux populaires, ensuite ce sont les jeunes issus des familles les plus nombreuses, ensuite ce sont ceux issus des campagnes et des cités, ensuite les garçons avant les filles. Et quand on regarde autour de soi, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'effectivement, la très grande majorité des gamins qui viennent passer leurs loisirs, je dirais tout simplement dans ces centres commerciaux, des loisirs marchands, eh bien ce sont des enfants en souffrance, ce sont des gamins un peu déstructurés, des personnes en quête identitaire. Le jeune qui nous dit « j'ai une casquette avec tel logo », jamais il va vous dire « je porte cette casquette parce qu'elle est de meilleure qualité, parce qu'elle protège plus du froid ou du chaud ». Il va vous dire « cette casquette, c'est un morceau de moi ». Et lorsque mes collègues enseignants ont beaucoup de difficultés pour faire enlever ces casquettes avec logo en classe, c'est tout simplement parce que les gamins ont le sentiment finalement que c'est une sorte de viol de leur intimité. C'est-à-dire qu'ils s'identifient très très profondément ici à cette casquette avec logo, mais ça pourrait être avec n'importe quel vêtement de marque, qui pour eux a une autre importance qu'une simple fonctionnalité, qu'une simple utilisation. Il y a un vieux dicton français qui dit « vivre d'amour et d'eau fraîche ». C'est vrai que lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien dans sa peau, on est un très mauvais consommateur. Et les publicitaires le savent, c'est pour ça qu'ils vont effectivement exploiter les angoisses, les peurs, ils vont jouer sur les névroses. Plus les gens sont malheureux, plus ils consomment. Ils consomment parce qu'ils pensent finalement meubler, remplir leur vide identitaire par des consommations de marque.
Il y a un tout nouvel esprit d'équipe ici, ça a tout changé.
Avant, les gens se bousculaient, renversaient les valises.
Journée, les All Black City ici.
Énorme, c'était.
Ils ont aidé tout le monde.
Pas dans l'avant, pas de passe dans les chaussettes, les bagages circulaient à toute vitesse.
Ils ont aidé un enfant à retrouver sa mère.
Tout le monde aide tout le monde. Quand on se sent bien dans ses baskets, ça se voit.
Dans le nombre.
Je lui ferai bien, moi, un petit placard.
Hey, Bray, ça me ferait plaisir.
Moi j'ai envie d'avoir les dernières Fumac qui sont sorties, mais j'ai pas assez d'argent.
Moi c'est les dernières Nike rouge bordeaux assez jolies, donc mais j'ai pas d'argent, faut que j'aille tirer de l'argent. Donc...
Vous êtes d'où vous alors?
16e. On est sur scène. Les gens en survêtement de sport, Lacoste et tout, ça va être tout de suite des cailles, ça va être direct.
Tout de suite.
Avec des casquettes, des bananes, Sergio Tacchini et les marques comme ça, tout de suite ça va être des cailles.
Les cailles, racailles.
Ouais, les racailles.
Dans le 16e, c'est tout ce que diesel, mais sexy, parce que c'est un quartier riche généralement, ils veulent se... Plus on a une marque, plus on veut montrer une certaine... qu'on est assez aisé, quoi. Donc,
dans ces quartiers-là,
c'est une espèce de vente tardive. Mes voisins, ils organisent des ventes privées. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tous les... Tous ceux qui s'habillent en diesel, énergie, mais ici, sont tous conviés aux ventes privées. Et il y a moins 50% sur toutes les affaires, en fait. Et ça fait que même tous ceux qui s'habillent comme ça, ils peuvent tout avoir moins cher. Donc aussi, ils ont un avantage, même s'ils ont de l'argent, ils ont encore un avantage.
C'est ceux qui ont le plus d'argent qui payent le moins cher finalement.
Voilà.
Oh les gars, super de basket ou quoi? Super de basket. Mademoiselle, une petite paire de baskets. J'ai un modèle qui vous irait à ravir. Une paire de Converse en noir.
Ça, c'est plaisir.
Vous irait très bien. Donc, ce que je peux te proposer, c'est l'Air Max 93. C'est un modèle rare qui n'est pas encore arrivé en France. C'est un modèle d'importation qui vient des États-Unis. Sinon, tu as les modèles comme les Shox, ce qu'on appelle avec le ressort là, la Boeing, très courtisée par les jeunes de cité en ce moment.
Et sinon, alors, qu'est-ce qui marche le plus fort en ce moment?
Le plus fort en ce moment, c'est soit les Converse All-Star, tout ce qui est All-Star, tous ces modèles-là, là, et les modèles de boxing, de boxe. Pour la plupart des gens qui sont dans le fashion, c'est la basket flashy, là, comme tu vois, c'est la Vampire des Flammes, tu vois, tout ce qui sort du commun, tu vois.
Donc la marque, c'est pas important pour eux?
Ah si, le plus important, c'est la marque. C'est clair que c'est la première chose qu'ils regardent en premier. Tu vas pas lui mettre une paire de Dunlop, il va pas la prendre, hein. C'est une paire de Puma, c'est autre chose. Tu prends Snoop Doggy Dogg, c'est un rappeur américain. Dans son dernier clip, il met une paire de Converse noires. Et ben, une semaine après, on m'a demandé peut-être 500 Converse noires par jour. Donc c'est toujours des phénomènes de mode. C'est comme ça que ça marche maintenant. Tu vois des modèles comme ça, par exemple, ce modèle-là, il a marché l'année dernière. Il a plus marché pendant 6 mois, ça s'appelle la Taekwondo. Il a plus marché pendant 6 mois. Et la saison dernière, à la fin de la saison, Star Academy, il y a 2-3 élèves qui l'ont remise. Et ben, le lendemain, tout le monde en voulait. Les gens viennent me voir, ouais, t'as pas celle qu'il avait hier dans Star Academy s'identifient beaucoup à leurs idoles de la télé. Et voilà quoi, le monde de la basket.
Genre si t'as pas la marque là sur une basket
Si j'ai pas de marque, je la vends pas, c'est tout simple. Si je prends une paire de baskets, je la mets dans la boutique, là si c'est pas du Nike, du Adidas, du Puma, je la vends pas.
La plus chère c'est laquelle?
C'est la Chinese, qui est faite avec de la peau d'autruche. Elle est à... Moi là je l'ai mis à 180€, mais elle est à la base elle est à 250€. Mais celui qui l'aura, ce sera le seul qui l'aura avec la signature du joueur, qui l'a porté et qui a joué avec. C'est comme si je te disais, demain je te ramène une paire de Air Jordan, signée par Michael Jordan au pied. Je serais toi, je la mettrai en vitrine plutôt que de la porter parce qu'on va te la voler. Si t'arrives à avoir une signature de joueur sur une paire de baskets, ça y est, c'est le succès total. C'est un honneur, c'est comme si Tony Parker il prenait une paire de baskets, il te mettait une signature dessus. Pour avoir la signature à Tony Parker, un des meilleurs joueurs du monde à son poste aux États-Unis, c'est prestigieux quand même.
Nike Champs présente Carnage d'athlètes. Ce soir, Vince Carter contre un trio de mimes équipés d'une bombe à retardement. Il reste 10 secondes au chrono. Les mimes ont la bombe.
Regardez comme il promène Vince.
Bon sous smash, Vince.
D'appel, oh explosif, et pour ça dans la tronche. Ça va faire mal demain au réveil, ça.
Payer les plus pour leur vendre plus et faire plus de profit. C'était un principe déjà dans les années 20 aux États-Unis. Les consuméristes parlaient de ce principe qui consistait à finalement manipuler les peuples pour que leur mode de vie corresponde aux besoins du capitalisme. On a vu arriver ça chez nous, en France, après la guerre dans les années 50. Quelques vigiles extrêmement subtils ont vu arriver le coup. Il s'appelait Georges Perec. Un livre comme Les Choses racontait déjà à l'avance cette société, enfin au moment où elle arrivait, cette société de consommation. Et puis évidemment, il y a eu de bord la société de spectacle, Weinegem et ces gens qui, au tournant des années 60, ont vu venir ce qui nous a totalement envahi aujourd'hui, c'est-à-dire la transformation de tout en marchandise. Absolument tout est devenu marchandise. Et on le voit dans le langage de ces jeunes. Évidemment, il y a du jeu là-dedans. Évidemment que depuis toujours et dans toutes les sociétés, le vêtement est un langage. Le vêtement et la parure sont des signes que nous lançons inconsciemment ou non. Il peut y avoir quelque chose de volontaire, d'involontaire, mais c'est bel et bien un langage qui dit une appartenance, qui dit une différence quand on porte une soutane, quand on porte des décorations, ou un fichu, tout est signe. Mais ces parures, ces expressions sont devenues entièrement marchandises, complètement de pied à la tête marchandises. Paul Ariès.
Il n'y a pas, je dirais, de développement aujourd'hui des marques sans flicage des jeunes, sans flicage de la population.
C'est-à-dire qu'on va de plus en plus utiliser d'autres jeunes pour essayer de détecter les tendances, pour essayer de voir finalement de quoi demain sera fait. Et on va utiliser ensuite les petits caïds, notamment dans les banlieues, comme leader d'opinion pour arriver à imposer des marques. C'est-à-dire que nous sommes véritablement en train de passer de l'âge de pierre à la modernité dans le domaine du marketing. Demain, ce qui va se développer, c'est ce qu'on appelle le psychomarketing. C'est-à-dire que tout simplement, on va utiliser les connaissances les plus récentes dans le domaine de la neurobiologie pour savoir comment frapper juste au niveau de la mémoire pour que, tout simplement, avoir une efficacité instrumentale beaucoup plus importante. Les grands cabinets de marketing, les grandes sociétés spécialisées utilisent les services d'universitaires, de chercheurs pour arriver à peaufiner tout simplement leur maîtrise de l'outil de manipulation. Prenons par exemple le fameux M de McDo. Ce M de McDo, c'est pas par hasard que c'est la première lettre du mot maman dans presque toutes les langues. C'est-à-dire qu'on va finalement, par le biais de la publicité, arriver à interagir avec des archaïsmes, avec des images qui sont déjà ancrées dans l'inconscient des personnes. Finalement, la manipulation, elle est passée par trois stades. Le premier stade, c'était tout simplement ce qu'on appelait la publicité rationnelle. On pensait que le consommateur était rationnel, donc on lui servait des arguments du type « mon produit est le meilleur du monde ». Puis on s'est rendu compte que ce type de publicité, elle ne permettait pas de comprendre tous les comportements. Donc on est passé à un deuxième âge de la publicité. C'est ce qu'on appelait tout simplement le viol des foules. On s'est rendu compte que plus on répétait un slogan, plus on avait de chances qu'il arrive à pénétrer profondément dans le cerveau. Et puis, là encore, ça ne permet pas complètement, je dirais, d'expliquer tous les comportements. Et puis surtout, je dirais, le consommateur, il reste trop passif. Et si on veut vraiment avoir une grande emprise sur lui, il faut que le consommateur soit aussi actif. C'est-à-dire qu'il faut interagir avec ses fantasmes, avec ses pulsions, etc. Et ça, c'est le troisième âge de la publicité, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que notre modernité a réveillé tous les fantasmes que toute culture avait pour fonction de canaliser. L'idée, par exemple, d'un monde sans limites, l'idée que tout soit possible, l'idée qu'il suffise d'acheter un produit pour avoir la solution à ses problèmes. La publicité va exploiter ce mal-être, ces névroses, ces pulsions, ces fantasmes, en disant « Oui, vous êtes malheureux, mais c'est pas si grave puisque nous avons la solution. »
Jusqu'où iriez-vous pour sauver une princesse ? Excellent. Maintenant, l'aventure peut commencer. L'histoire ne se répète jamais.
Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire là ? Vous venez d'où d'abord ?
On vient d'où ? On vient de Sens. 89, tu vois, à côté d'Auxerre. Là, on est venu pépère, on attend un pote. Tu vois, on attend un pote, on vient chercher de la sable, vite fait. On vient draguer des filles, parce qu'on nous a dit que Paris, tu vois, il y avait trop de filles. Donc, on est venu saper fashion, tu vois.
Fashion victime, Armand Thierry, et tout, quoi. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous portez là, vous, par exemple ?
Du moulin, du jean Armand Thierry,
un corps bien musclé.
Des petites casquettes posées, voilà, il faut.
Alors là, vous en avez pour combien sur vous, là, par exemple ?
Il en a pour, on va 300. Dire, 300 euros. 300 euros.
Normal.
Moi, j'en ai pour... On est tous un peu cher, là.
60 euros.
C'est la New Generation.
120, 180.
Ah non, bah, pas combien de...
180, attends, 180. Ouais. Le jean, 60. Les pompes, 120. La casquette, 50. Ouais. Il y en a pour, 300 euros, encore.
300 euros chacun.
C'est ça, les jeunes, monsieur, maintenant.
Les jeunes d'aujourd'hui, ça s'habille cher. Ah.
Et comment vous faites, hein, pour payer tout comment ça ?
On fait du biz, monsieur.
On bise. C'est le business. Et c'est les sous de la maman.
Faut biser, hein.
Ça, les petits jobs, on va, on job, et puis on bise quoi. Business, hein, c'est ça. Dans notre société, il faut faire du bénéf. Sans bénéf, t'es rien.
Et sans marque ?
Sans marque, t'es rien. T'es un loser. T'es un loser sans marque. Si t'as pas de marque, personne te regarde. Si tu mets du STL, tu dois te faire passer pour un bouffon. Si tu mets du Nike, on te regarde. Quand on parle de la marque, on est quelqu'un. On représente une valeur. On est une valeur, on est quelqu'un. Quand t'as de la marque, t'es quelqu'un. Tu t'imposes.
C'est quoi STL ?
STL,
marque
c'est
du Carrefour.
C'est la marque premier prix, ce qu'on portait quand on avait 6 ans.
Voilà, le corps est habillé comme ça. Nous, quand on était petits, c'était une chaussure à scratch qui arrivait jusqu'au genou. Après, normal, quand on est grand, on va être bien habillé et tout.
Non, voilà, c'est l'histoire de, c'est une forme d'intégration au sein d'un groupe, quoi. C'est juste pour pas se sentir exclu par rapport aux autres.
Si on n'a pas de marque, on peut pas avoir d'amis, alors.
Non.
Sinon, on n'a que des intellos comme amis. Parce que les intellos, ceux qui aiment bien l'école, ils sont mal habillés.
Donc il faut porter de la marque et travailler mal.
Non, on n'a pas dit ça, monsieur. Parce que c'est la marque, je travaille bien, regardez-moi, Terminal S.
Mais vous n'avez pas l'impression quand même de ressembler à des clones, quoi ? C'est-à-dire que vous portez tous les mêmes marques ?
Non, regardez, c'est différent,
chacun
monsieur.
Chacun son style.
Chacun ses goûts.
Moi, c'est Fashion Victim, lui, c'est Lascar, lui, c'est Beau Gosse. C'est pas pareil, monsieur.
Alors, fashion victim, Lascar,
et
beau gosse. Mais c'est quoi le look, Lascar?
Le look Lascar, c'est casquette Lacoste, banane Lacoste, la démarche Ascom et tout, c'est ça.
Et vous vous rappelez de votre première paire de baskets?
Ma première paire de baskets, c'est quand je venais d'arriver en France et mon père, il est parti acheter à Carrefour.
Et alors, il venait d'où, votre père?
Du Sénégal. Et tous les Africains qui viennent en France, ils viennent pourquoi? Pour chercher de l'argent, pas pour dépenser de l'argent pour leurs enfants. Donc, parce qu'eux, ils ont une idée. Même si on est mal habillé, on peut rentrer partout. C'est ça pour eux. Mais non, en fait, eux, ils savent pas que si on est mal habillé, il y a certains endroits, on peut pas rentrer. C'est normal. Parce que voilà, c'est comme ça. Comme en boîte. En boîte, t'es mal habillé, tu rentres pas. Donc, dans la vie, c'est comme ça.
Alors, votre première paire de baskets?
STL de Carrefour. Elle a coûté, je me rappelle bien, 5,80€.
Elle a marqué cette paire.
Et alors, quand vous êtes allé à l'école le lendemain avec cette paire?
La honte. J'avais honte. Maintenant, je regarde des photos de moi. J'ai trop la honte.
Celui qui a pas de marque, qu'est-ce qu'on dit de lui?
On dit c'est un loser.
C'est une baltringue.
C'est un loser.
Celui qui a pas de marque, c'est un loser. Donc vous êtes des winners, alors, si j'ai bien compris.
Comment? Des winners. On joue en hard. On joue hard, expert. Tu vois, c'est comme sur PlayStation. Il y a easy et il y a expert. Non, expert et les losers, ils sont easy, quoi. Easy. Ou beginner, encore plus bas.
En plus, ici, on est à Châtelet, vous les voyez pas, les losers.
Il n'y a pas de losers qui viennent ici, ils osent pas.
Ils osent pas. Voilà. Ceux qui viennent ici, c'est ceux qui consomment. Ici, c'est vraiment le repère où il y a tous les gros consommateurs. Ici, tout est attirant pour acheter.
Bienvenue.
Devant les magasins, devant les grands magasins.
Parce que tous les magasins veulent nous attirer.
De vêtements américains, vous avez toujours quelqu'un qui est posté, habillé avec des vêtements du magasin pour justement vous inviter à acheter. Donc celui qui vient pas acheter, il s'y perd parce que ici tout est fait pour qu'on achète.
Vos parents, ça
comment
vouloir dépenser autant, ça ne fait pas tiquer, non?
Ils savent pas, on se cache. Parce que s'ils savaient ce qu'on dépensait sur les fringues, ils nous jetteraient dehors.
Vos parents, ils savent que vous mettez 150€ dans une paire de
chaussures. Ma mère, oui. Parce que ma mère, elle est plus intégrée que mon père. Parce que ma mère, elle a des amis blanches, elle sait comment ça se passe. Mais mon père, c'est l'usine, il dort. Donc il a pas envie d'être intégré, c'est tout. Mais comme ma daronne est... Ma mère, plutôt, elle est plus intégrée. Elle sait comment je pense.
À l'heure actuelle, il n'y a que ça. Il faut consommer pour s'intégrer dans la société aussi. Mais pour les jeunes, c'est ça. Il faut consommer pour s'intégrer, quoi. Appartenir à un groupe, c'est ça.
Appartenir à un groupe, voilà, c'est l'une des clés de ce comportement et des marques. Et quand tu portes la marque, tu portes le ghetto. Ce garçon parle de daron. Ça, c'est du vieil argot, hein. On l'entend chez Bruant. Le daron, la daronne, les parents. Et vous vous souvenez, dans Bruant, je monte au but, je fais mes épates avec mon pantalon qui est mince des genoux et large des pattes. C'était le pas de def. Au temps de Bruant, on portait, au temps des Apaches, on portait les pattes d'Ef. Il y avait ces comportements, il y avait ces looks, il y avait ces langages, il y avait ces à la fois cette façon de se distinguer et de s'intégrer à un groupe. Tous ces comportements-là sont très anciens. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça est récupéré par le marché et pas seulement par le commerce, mais par le marché. Paul Ariès.
Derrière l'idéologie des marques, il y a une véritable violence. Le racket dans les écoles, ça ne concerne que les produits de marque. Le gamin qui aujourd'hui ne porte pas de marque se sent et est complètement exclu et marginalisé. Et ce phénomène, il commence dès l'école maternelle. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des phénomènes de constitution de bandes d'enfants, de copains, mais excluant les autres sur la base d'identité de marque. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Si on n'accepte pas d'apparaître, notamment par son vêtement, comme j'allais dire, un bon petit soldat de la société de consommation, immédiatement, il y a une sorte de rappel à l'ordre qui est fait. Je dis rappel à l'ordre non pas par les puissants de ce monde, mais tout simplement par ceux avec qui on partage le quotidien.
Ouais, franchement.
On a fait un, c'est bon maintenant. Non, j'aime pas, surtout c'est blanc, ça va avec rien.
On pourrait dire qu'on est en train de passer de la société des pères à la société des frères. La société des pères, c'était celle dans laquelle l'individu héritait d'une culture, héritait d'une mémoire. Il allait essayer de transformer cette culture et cette mémoire. La société des frères, c'est celle qui est fondée sur le mimétisme, c'est-à-dire sur le fait de devoir faire comme les autres, de ne surtout pas être différent des autres.
Et il suffit de regarder aujourd'hui les cours de récréation ou des forums comme le Forum des Halles, on se rend compte que finalement, alors qu'on dit qu'on est dans une société d'abondance, alors qu'on est dans une société de libre choix, les individus, ben finalement, je dirais, se portent à peu près le même type de vêtements et se reconnaissent à la détention d'un certain nombre d'objets qui ont une fonction plus magique que réellement utilitaire. Il faut savoir que ces jeunes qui sont autour de nous, je dirais, s'ils sont autant accros aux marques, c'est pas par hasard. Un jeune en France, il subit chaque année 20 000 spots publicitaires. Aux États-Unis, c'est 40 000. Ça veut dire qu'il y a un véritable formatage. Ça se fait pas tout seul. Le fait de dire j'aime Nike ou j'aime telle autre marque, c'est le résultat d'un conditionnement extraordinaire. Mais je dirais, plus la mondialisation telle qu'elle se réalise aujourd'hui va progresser, plus les identités collectives et individuelles vont être en souffrance et plus nécessairement la dictature des marques va se développer. Nous sommes véritablement au début d'une ère nouvelle. C'est celle du moi modulable. C'est celle d'un individu qui non seulement n'a plus d'identité collective certaine. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est qu'être croyant? Qu'est-ce que c'est qu'être engagé politiquement? Mais qui n'a plus non plus d'identité personnelle solide. Et le marché va venir proposer ses pseudo-solutions. Tu n'es plus rien, ni individuellement, ni collectivement, mais grâce à nous, grâce à la consommation de marque, tu vas être quelqu'un.
Le premier en acheter un, c'est bon maintenant, c'est vachement bien, quoi. Le j'aime pas, du tout, c'est blanc, ça va avec rien.
Allez, sérieux là, allez, qu'est-ce que tu fais?
Bah, il fait pas ça.
Il y a pas de boule là. Ouais, là, franchement.
À partir du moment où les gens commencerait à retrouver des racines, à être à nouveau à l'aise dans leur vie, à avoir des repères, eh bien la consommation reprendrait sa juste place. C'est-à-dire tout simplement celle d'un rapport utilitaire aux choses. Je veux dire, je peux très bien acheter une casquette parce qu'il y a beaucoup de soleil dehors, mais jamais un gamin portant une casquette avec un logo de telle ou telle marque ne va vous dire « j'achète cette casquette parce qu'elle me protège plus du soleil ou de la pluie ». Il va vous dire « j'achète cette casquette parce que grâce à elle, je suis quelqu'un. Parce que grâce à elle, je peux avoir, entre guillemets, toutes les filles que je veux. Parce que grâce à elle, je suis reconnu. Je vais penser avoir finalement une sorte de solution toute faite, hein, mais une fausse solution, qui est de dire « je vais m'intégrer, je vais donner un sens à mon existence à travers la consommation ». Mais je dirais que c'est une fausse intégration. La vraie intégration, elle passe tout simplement par l'acquisition d'une culture, par l'accession à un véritable métier, par la prise de responsabilité dans la société. Quand on dit « je consomme pour m'intégrer », je dirais on n'est même pas à la surface des choses, on est dans le mensonge social. C'est-à-dire que ce jeune qui croit s'intégrer par la consommation, dans 20 ans, il en sera au même point qu'aujourd'hui. Il ne sera toujours pas intégré. La consommation, c'est pas ce qui permet de s'intégrer. C'est pas ce qui permet de construire un projet de vie individuelle ou un projet collectif. Ces jeunes qui pensent réduire leur vie, leur existence à des marques, qu'est-ce qu'ils vont avoir à transmettre à leurs propres enfants? Je dirais que jusqu'à présent, on transmettait de la culture, du politique, du religieux. Ici, on va transmettre des identités de marque. Mes enfants porteront Benetton parce que moi-même, j'étais habillé avec telle marque. Je dirais, c'est non seulement, je dirais, la volonté des grandes sociétés de mettre la main sur l'identité, mais en même temps, c'est évident que c'est une déconstruction, je dirais, radicale à la racine des individus. Ben finalement, tout ce qui resterait à nos enfants pour rêver, pour se construire, ça serait ce rapport, je dirais, au plus profane, c'est-à-dire le rapport au marché, à l'objet, le rapport à l'argent.
Tu kiffes Adidas, Reebok, Nike, tu kiffes As, le salaire annuel cumulé des 6500 employés travaillant pour Nike en Thaïlande et en Corée du Sud équivaut à la moitié de ce que gagnaient les 13 membres du directoire de la firme. Donc j'affirme qu'une paire de chaussures vendues 400 francs peut avoir généré un salaire de 70 centimes seulement. C'est ouf, non? C'est ouf, non? As-tu déjà entendu parler de Harry Wookie? En tout cas, la marque de Jim Levis a résilié 150 contrats d'un coup. Avec la Chine, il n'avait pas vu le vice. Tout était
fabriqué par des prisonniers politiques. Il est libre de Harry, tu verras, il t'explique. Donc à mon tour, je m'applique comme Dominique Torres. Respect à cette sœur grâce à laquelle on progresse. On veut tous les escargots deviennent des princes et des princesses. Et pour ça, il ne faut pas faire preuve de faiblesse.
Présente et pour ça dans la tronche.
Ça va faire mal de mort au réveil.
Le seul régime à avoir interdit la publicité, le système totalitaire, la propagande a toujours été l'ennemi annoncé de la publicité. Jacques Séguéla, pour des gens comme Jacques Séguéla, eh bien la publicité, c'est le synonyme de la démocratie, de la liberté, du choix, du libre-échange. Et c'est ce qu'on retrouve tout au long et dans la tête de ces jeunes qui sont dans ce forum idéal ce samedi, saisis par la fièvre acheteuse. Mais ils ne sont pas les seuls, c'est pas une exclusivité des jeunes des banlieues sensibles, comme on dit, que d'être envahis par cette manie. Partout dans les beaux quartiers, on a vu ces deux jeunes filles venant des beaux quartiers. Eh bien, c'est la même chose et c'est à tous les âges. Nous sommes envahis par la pub. Et, eh bien, on voit comme Paul Ariès, politologue et qui enseigne à l'université de Lyon 2, se bat avec d'autres dans ce mouvement casseur de pub pour une résistance radicale et définitive. Pas des aménagements, pas apprendre à savoir lire la pub demain. Non à la pub.
C'est une question, merci.
C'est pas une marque, c'est porté par des acteurs, par des personnes, ouais, voilà. Par des personnes célèbres.
Être sans marque, c'est très fade un petit peu.
Ouais, c'est dans nos têtes quoi, dès qu'on met pas de marque, bah voilà.
Sans mal quoi.
Ouais. Vous par exemple, faites quoi?
Moi je travaille moi.
Qu'est-ce que vous faites?
Dans la restauration.
Et vous gagnez combien?
1300 euros. Ah. Ça fait quoi, passe dans les habits quoi. Voilà, il y a que ça à faire.
Histoire d'être à l'actualité.
De toute façon, c'est pour rentrer dans les endroits branchés, comme les boîtes, les feux.
Ouais, c'est un peu ça.
Si vous voulez, ça passe partout. Très bien stylé, c'est rentrer un peu n'importe où, quoi. Alors, vous savez, en ce moment, les filles sont un peu matérialistes. Regarde beaucoup le style des garçons. Après, ensuite, la voiture, mais d'abord le style, quoi. Le physique. C'est le premier regard que portent les filles sur un mec.
Et vous, premier regard que vous portez sur une fille, c'est quoi?
Le style.
Ouais, le style. La mode vestimentaire. Après, il y a les fesses.
Et les yeux, un peu.
Quand on regarde une fille qui est mal habillée, franchement, ça donne pas trop envie de.
Je sais
pas,
c'est. Un look un peu ringard, je sais pas.
On peut communiquer, nous aussi.
C'est quoi comme style, toi?
Moi, c'est. Bah, tu vois bien, Chanel.
Style hip hop dégagé dans les côtés, quoi.
Ouais, voilà.
Quand tu regardes un mec, c'est quoi que tu regardes en premier?
Le jean.
Le style.
Ses yeux. Maintenant, vestimentairement parlant...
Tu peux voir un beau mec habillé comme un taré. C'est...
Ouais, enfin, ça m'attire pas.
Ouais, voilà.
Il faut qu'il soit bien habillé, il faut que tout aille avec.
Il faut qu'il y ait un style quand même.
Ouais, clair. Quand même.
On peut voir qu'elle a des baskets diesel.
Ouais, j'ai une. Ouais. Bah, ça va, diesel, c'est un jean diesel, ça, non? Énergie, bien, pas mal. Je me sens mieux dans un jean diesel que dans un jean du marché que je vais... Voilà. Maintenant, pour vivre avec ses moyens.
Le SMIC, il est à 6500 et suivre un jean diesel, ça coûte 200 euros. Alors les jeans diesel, il faut les baskets qui coûtent 150 euros, il faut le haut qui fait minimum 90 euros, ça revient cher.
Tout mon argent passe dans les habits, pratiquement.
Tu es encore avec tes parents?
Non, et pourtant non.
Et les enfants aussi sont
encore avec des enfants et tout ça.
Bah, j'ai ma fille, elle aussi, il faut que je l'habille à la mode, elle a 3 ans.
Ah,
et
t'as une brassure.
Ouais, ça va grâce à Dieu.
Elle a 3 ans?
Elle a 3 ans et je l'habille Nike, Air Force, tout ce qui sort, je lui prends quoi.
Les styles, ça catalogue les gens aussi pas mal. Tu descends sur Paris, t'arrives... basket, Puma, lui c'est un mec de cité, lui c'est ça catalogue pas mal quand même.
C'est clair que si on porte une casquette et un jogging, on se fait passer pour une racaille.
Les Parisiens, ils ont plus le style surfeur, grunge, skate, ils sont plus soft, sont plus.
Et les meufs un peu plus, comment ça s'appelle là?
Classique.
Ouais, classique, mais les hippies, tout ça, là, ça Paris c'est plutôt ça, non?
Non. Pas hippie, non, je dirais pas.
Les gothistes, tout ça.
Les gens de Paris osent plus.
Ouais, ils se permettent plus
de choses. Ils se permettent plus de choses. Moi, je vois que.
Vous êtes d'où?
95. Mais les filles de Paris, elles osent plus être extravagantes. genre mettre un pantalon rose fluo et avec un haut jaune, ça, y a pas de problème. Alors que nous, non, le pantalon, il est pas accordé avec les baskets, non, ça le fait pas.
Et moi, par exemple, vous regardez là, vous dites, il vient d'où?
Comment? Paris.
Paris.
C'est un Parisien. On m'a pris à l'âge qui différencie aussi, on n'a pas le même âge, on s'aime pas
le mieux, quoi.
Ah non, c'est pas ça, mais vous habillez suivant votre génération aussi.
Ouais. Alors si vous alliez me relooker pour faire tendance, qu'est-ce que vous me mettriez là?
Non, un jean simple avec une petite chemise. Ouais, une petite chemise, je vois bien.
Une petite chemise de Zara.
Ouais. Mais des belles baskets bien habillées. Ouais, c'est ça le style.
Voilà, je vais aller faire les magasins alors. Je vais me réveiller pour faire tendance fashion. Au revoir. Au revoir.
Allez. J'ai une idée. Je suis sur Nike. Série limitée Vuitton. Se sent exister quand elle se brûle volontairement avec une cigarette. T-shirt imprimé. Be yourself. Comme tout le monde. Téléphone mobile. 85 grammes. Mode main libre. Kelly, pantalon de laine, Gucci, zippé de bas en haut, anorexique depuis 2 ans, veste en coyote et patchwork de peau John Galliano, en alternance avec des crises de boulimie, bottines en cuir vine, Christian Dior, be yourself, comme tout le monde. Marie, robe à bretelles, en mousseline de soie noire, Prada. Ses obsessions tournent autour de l'ordre, de la peur, de la contamination et de la répétition de certains mots. Sandales hautes, un bracelet de cheville, Christian Lacroix. Be yourself. Bien dans son corps. Mobile, customisé, zippé de bas en haut, son corps, X, un patchwork de peau, XR, comme tout le monde, dans l'ordre, la peur, la contamination, et la répétition de certains mots.
Qu'est-ce que c'est jeune à la base, j'y suis, hein. C'est bien quand même, hein. C'est vachement jeune, c'était Putain de ta marque, un reportage d'Edouard Mills Safif. Merci à Paul Ariès, auteur de Putain de ta marque, justement, la pub contre l'esprit de révolte aux éditions Goliath. Citons au hasard, comme ça, en passant l'association Casseurs de Pub, site www.antipub.net, et plus d'informations sur le site de la Bassie J'y suis en allant sur franceinter.com. Il me reste un petit peu de temps pour vous parler un peu de bouquins. Alors, un bouquin de François Maspero, notre ami François Maspero, qui sort une anthologie un peu de ses voyages aux éditions La Quinzaine Littéraire, dans la série Voyager avec, s'appelle Transit et compagnie, la plume acérée, pointue, sans graisse, il n'y a pas de gras, hein, chez François Maspero, ses reportages et ses voyages, qui font, enfin, suite, si on veut, à son bouquin merveilleux, qui s'appelle Les abeilles et la guêpe. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais ça, c'est à ne pas manquer, comme on dit, dans les vraies émissions littéraires. Et puis ça, c'est formidable. C'est le livre d'une émission de radio, une des plus belles émissions de radio du monde, qui est chez nous, ici même, sur France Culture. Et ça s'appelle Des papous dans la tête et Les décraqués. Vous connaissez cette émission, c'est sur Culture, tous les jours à 13h30, du lundi au vendredi pour Les décraqués. Et Les papous, c'est le dimanche à 12h45. Et Françoise Trossard et Bertrand Jérôme, à la demande générale de leur public en folie, ont fait une anthologie des meilleurs textes des oaves qui s'agitent dans cette émission absolument formidable depuis 20 ans. Et c'est pas tout. Chaque année, ils font une grande émission en public. Et ce sera le samedi 5 juin à 19h à la Maison de la Radio, au studio 104. Voilà, il y a... libre dans la limite des places disponibles, mais ça va être une grande soirée. Voilà, il est 18h sur France Inter. J'ai oublié l'essentiel, c'est qu'à la technique aujourd'hui, il y avait Lidvine Caron et Olivier Daligo, Koye Nguyen, Christophe Imbert et Pascal Pascariello, c'est l'équipe de la Basse. J'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. À demain 17h pour la Basse. J'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.